Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. L'info qui suit a attiré mon attention ces derniers jours et j'avais envie de te partager mon avis, ainsi que les pistes d'action très concrètes qui ont émergé à travers son analyse. Bonne écoute.
Daybreak tue les communautés de modding EverQuest par intimidation et copyright. Le propriétaire d'EverQuest utilise une stratégie juridique d'intimidation pour écraser les communautés de modding, forçant la fermeture de dizaines de serveurs communautaires et imposant des conditions draconiennes aux outils de développement partagé. Cette affaire révèle un changement de paradigme brutal dans l'écosystème du jeu vidéo. Pendant des décennies, EverQuest avait implicitement béni les communautés de modding qui permettaient aux joueurs de faire tourner leur propre serveur avec des règles personnalisées. Mais Daybreak, le propriétaire actuel, a choisi la stratégie du choc, attaquer directement en justice plutôt que d'envoyer une simple mise en demeure. Cette approche d'intimidation maximale a eu des effets dévastateurs bien au-delà du projet visé. Le juge, apparemment trompé par des comparaisons d'images qui omettaient de préciser que les visuels provenaient du client officiel légalement téléchargé, a rendu une décision qui sert maintenant d'arme psychologique contre toute la communauté. Le résultat, dozens de serveurs communautaires fermés et l'adoption forcée de conditions d'utilisation qui donnent à Daybreak un droit de vie ou de mort arbitraire sur tous les projets futurs. L'effet de contagion est saisissant, même les projets non directement concernés par la décision capitulent face à la menace implicite, point de vigilance. Attention au piège, propriété intellectuelle sacrée. Les modeurs utilisent avec le client officiel légalement acquis et créent les internautes leurs propres infrastructures. Le vrai enjeu n'est pas le copyright, mais le contrôle des communautés et des usages alternatifs. Et maintenant, face à ces enjeux, plusieurs pistes d'action systémique se dessinent. Développer des architectures de jeu vraiment décentralisées où les assets visuels sont séparés de la logique de jeu. On pourrait imaginer des protocoles ouverts pour les MMO ou les serveurs communautaires n'ont plus besoin des assets propriétaires pour fonctionner. Les projets comme Minetest montrent la voie. Même gameplay, assets libres, impossible à attaquer. Cette approche technique casse le cercle vicieux où les communautés restent dépendantes des assets propriétaires, donc vulnérables aux attaques juridiques. L'effet de réseau se crée quand plusieurs jeux adoptent ces architectures modulaires. On saura que ça marche quand les premiers MMO mainstream adopteront des protocoles de serveurs ouverts et quand émergera un écosystème d'assets libres suffisamment riche pour rivaliser avec les productions propriétaires. Créer une exception de droit de bricolage dans le copyright pour les logiciels légalement acquis. L'idée serait d'étendre le principe de First Sale Doctrine aux environnements sans numérique. Et si j'ai acheté un logiciel, j'ai le droit de le faire fonctionner sur l'infrastructure de mon choix, tant que je ne redistribue pas les assets propriétaires. Une coalition regroupant EFF, association de consommateurs et communautés de gamers, pourrait pousser cette réforme. Le levier réglementaire casse le modèle d'intimidation juridique en sécurisant juridiquement les pratiques de modding. On saura que ça avance quand les premières propositions de loi sur le right to tinker numérique seront déposées et quand les décisions judiciaires commenceront à distinguer clairement usage légitime d'infrastructures alternatives et piratage. Documenter et valoriser la contribution économique et culturelle des communautés de modding. Trop souvent, ces écosystèmes sont invisibilisés alors qu'ils représentent des millions d'heures de travail créatif gratuit et prolongeant la vie des jeux bien au-delà de leur cycle commercial classique. Une alliance entre chercheurs en économie numérique, journalistes spécialisés et communautés pourrait produire des études d'impact montrant la valeur créée par ces écosystèmes. Changer le narratif dominant du piratage vers celui de co-création culturelle rendrait plus difficile l'acceptation sociale de ces stratégies d'intimidation. On saura que le narratif bascule quand les médias mainstream parleront de destruction de patrimoine culturel numérique plutôt que de protection de propriété intellectuelle et quand les investisseurs intégreront la santé des communautés de modding dans leur évaluation des actifs gaming. Ces pistes ne sont pas des recettes toutes faites, mais des points d'entrée pour repenser nos systèmes numériques selon une logique de liberté positive, non pas limitée, mais augmenter nos capacités collectives d'action. Si tu connais des exemples réels qui vont dans ce sens, ou des contre-exemples qui méritent d'être documentés, partage-les-moi et documentons-les ensemble. À Media, Max Witt, 700 Piliers Grid Responsive, Grid Template Columns, Repeat 3 en FR, important, Per Month, Pilier Text Responsive, Font Size, 30 ans, pics importants. At media, max 8, 400 employee typiques, sans pillars grid responsive achiever, grid template columns repeat to the two, one FLD important gap, 12 pics importants pour 300 points, pillar text responsive achiever, font size 12 to those pics importants pour autre. On dit plus d'articles par pilier de la liberté selon Snyder, souveraineté, imprévisibilité, mobilité, factualité, solidarité.
Merci de m'avoir écouté. Si tu as apprécié ce podcast, n'hésite pas à le partager. À bientôt.